Mode d'emploi. Mode d'emploi. Mode d'emploi.
Ah, bienvenue donc sur Mode d'emploi, séquence secret de fabrication. Donc, comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois, une séquence un peu spéciale où nous parlons de la vie dans les entreprises, dans la fonction publique, enfin partout où ça travaille et partout où ça cherche du travail aussi. Donc, c'est une émission qui est ouverte, qui cherche à faire parler les gens sur leurs conditions de travail et leur résistance aussi. Voilà, donc ça c'est un peu l'intro. Aujourd'hui, c'est une séquence un peu particulière. C'est notre première séquence en Macronie. Voilà, nous sommes désormais en Macronie, il faut se le dire. Et c'est sûr que c'est un peu spécial, ça se passe pas comme partout ailleurs. La Macronie est un pays bien particulier qu'il va falloir apprendre à connaître les 5 prochaines années. Et on a vu qu'il y avait toute une série de projets. À la fois parce que juste avant de passer la main, le gouvernement Hollande a pris toute une série de décrets, toute une série de mesures qu'il gardait dans les cartons, toute une série de mesures d'application de la loi El Khomri, qui font que le paysage est en train de changer en ce moment même. C'est ce qu'on va voir notamment autour de la question de l'inspection du travail. Justement, d'ailleurs, je vous présente mon invité. Mon invité est Sophie. Donc Sophie, présente-toi.
Donc Sophie, inspectrice du travail à Paris.
Voilà, qui va participer à cette émission avec nous toute cette soirée, notamment pour nous parler de la mobilisation qui a eu lieu
dans toute l'Île-de-France et dans tous les départements en France.
Ouais, c'est ça, hier exactement. Voilà. Et donc ça, nous parlons de ça, mais d'abord nous allons nous pencher un peu sur ce que c'est que la Macronie. Hein, notamment en examinant les dispositions que Monsieur Macron, à peine installé à l'Élysée, nous a promises. Alors malheureusement, ça va pas faire plaisir à grand monde, hein, parce que c'est pas vraiment très joyeux. Alors donc ça s'appelle les mesures employeur/salariés. Notez déjà l'importance de toute la formulation, hein, c'est employeur et salarié comme s'ils étaient pareils. On sait que c'est pas tout à fait vrai. Et donc ces mesures, c'est développement de la négociation collective et primauté des accords d'entreprise, accords collectifs. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des choses comme les institutions représentatives du personnel, genre comme la fusion de toutes les institutions représentatives du personnel, donc la disparition des institutions individuelles qu'on a défendues à longueur d'émission ici. Après il y a des choses plus ou moins intéressantes, hein, c'est basé sur l'économie de l'iPhone et l'économie de la bullshit économie, hein, des mini jobs et de l'auto-entrepreneuriat. Voilà. T'as des expériences comme ça d'avoir rencontré des faux auto-entrepreneurs ou des choses comme ça? Ça t'est arrivé, Sophie?
Les faux, c'est des choses qu'on voit des fois en permanence, hein, des salariés qui viennent et qui du coup n'ont aucun droit parce que ils n'ont pas le statut de salarié. Donc l'auto-entrepreneuriat, c'est un peu une bombe pour le code du travail parce qu'en fait il y a plus de code. Voilà.
Il n'y a plus de code, voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est le projet, hein, on va réduire le code à sa plus simple expression. Tout sera fait en accord d'entreprise et on verra aussi que les accords d'entreprise seront facilités par certaines des règles qui seront mises en place. Alors maintenant, est-ce que le téléphone est en train de sonner? Oui, j'ai l'impression que le téléphone est en train de sonner en régie. Nous allons avoir notre invité. Eh oui. Allô? Donc est-ce que Laurent est là?
Jérôme.
Ouais, salut Laurent, tu m'entends?
Oui, tout à fait.
C'est bon.
Et vous m'entendez bien?
Oui, on t'entend bien. Alors attends juste 2 secondes, je fixe les écouteurs de Sophie, qu'elle puisse intervenir avec toi. Voilà, donc maintenant je crois que tout le monde t'entend. Il y a les filles?
Ouais.
Ok, c'est bon, on t'entend bien. Alors, Laurent, présente-toi. Donc je te dis bienvenue en Macronie, hein?
Enfin, nous dans le commerce, on y est déjà depuis 2014-2015, donc
oui.
On connaît bien le Macron, nous.
Oui.
Voilà, donc moi je suis Laurent de Gousset, je suis un des animateurs de de Sud-Commerce. On a en particulier un travail, enfin on l'a toujours d'ailleurs, mais c'est plus les répercussions, un travail important, une mobilisation en tout cas la plus importante possible qu'on a créé donc en 2014-2015, pendant presque l'année entière qui a valu l'adoption de la loi Macron 1.
Ouais, c'est ça.
On s'est à nouveau retrouvés parce que tout le monde dit la loi travail, dites-toi El Khomri, mais en fait, c'est la loi Macron 2.
C'est ça.
Je sais. Hein, c'est simplement qu'on a été chercher quelqu'un peut-être d'un peu plus avenant, etc., à présenter en vitrine. Et puis, comme ma foi, le garçon a pris de l'envergure, sa première préoccupation sera de faire adopter une loi Macron 3.
Ouais. Hein. La loi El Khomri au carré.
Voilà, tout à fait. Je dis ça parce que, visiblement, on a appris aujourd'hui que le conseiller social de l'Élysée n'était autre que M. Pierre-André Imbert, qui était lui-même le conseiller social de Mme El Khomri.
Ah ouais,
voilà, tout est dans tout.
Tout se transforme, rien ne se perd.
Voilà.
Alors, on voulait revenir avec toi sur un certain nombre de dispositions qui nous ont été d'ores et déjà promises. Hein. Avant même la formation du gouvernement, on parlait déjà des mesures employeurs-salariés, hein, sur lesquelles je voulais revenir un peu avec toi, notamment pour en te détaillant petit à petit un certain nombre de choses. Alors, on va commencer par là, c'est magnifique. Le code du travail, encore une énième refonte. Donc, le code du travail va définitivement être réduit à un socle de règles minimales, et toute primauté sera donnée aux accords d'entreprise. Alors, ce qui est intéressant avec ça, bon, ça, on avait déjà quelques éléments. L'accord collectif maintenant pourra commencer à être présenté à l'entreprise avec juste 30% des suffrages exprimés au premier tour. Hein, c'est ça, hein?
Alors, en fait, l'opération réalisée par Macron, c'est quoi? C'est simplement pousser les feux sous l'héritage Hollande. Il n'invente rien. Il fait que déplacer le curseur davantage vers la droite. Hein. Plus également, essayer de nous faire avaler les quelques points négatifs que la lutte contre la loi El Khomri a quand même permis d'éviter. C'est ça son opération. Alors j'aurais tendance à dire le seul mérite de Macron, contrairement à Hollande, c'est qu'il a clairement annoncé la couleur.
Ça c'est sûr.
C'était dans le programme d'En Marche, etc. et tout. Je dis ça parce qu'après on dira, c'est pas tout de dresser un constat, c'est comment on fait pour réagir. Donc au moins j'aurais tendance à dire, on est tous prévenus. Voilà. Et la bataille contre la loi El Khomri, à défaut de l'avoir gagnée, nous a quand même appris un certain nombre de choses et nous a donné, à mon sens, quelques réflexes. Donc par exemple, on va prendre quelques mesures.
Vas-y.
La loi El Khomri, c'était de dire, il y a le code du travail, socle des droits minimum, hein, ouais. La loi, le principe, qui d'ailleurs le plus souvent est issu ou des engagements internationaux ou du droit social européen, parce qu'il existe un droit social entre guillemets européen. De passer d'une architecture de 2 à 3 étages du code, c'est-à-dire 2 étages, c'est ce qu'on connaît, on va dire, aller globalement depuis les années 80, c'est-à-dire il y a un principe, et pour dévoyer ce principe, pour affaiblir ce principe, on l'a sorti en permanence de dérogation. Hein, l'exemple typique, par exemple, c'est le repos dominical. Hein, okay. Même moi, je déforme. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est toujours écrit dans le code du travail que, par principe, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Ouais.
Mais c'est tellement assorti de dérogation au fil du temps que ça en devient un principe pieux. Hein. Et je dis ça pas seulement parce que c'est le dimanche. Donc, qu'est-ce qu'avait fait la loi El Khomri sur ce qu'on appelle le livre 2, c'est-à-dire une partie qui est quand même importante dans le code du travail, c'est-à-dire sur la question du temps de travail.
Ouais.
C'est de créer une nouvelle architecture du code, non plus à 2, mais à 3 étages. Hein, c'est-à-dire, il y a un principe, super, généralement les principes sont bons, hein, voilà. C'était un peu les principes qu'avaient résumé Badinter et Lioncamp dans son livre. Hein. Il avait voulu ramener en gros les principes essentiels du code du travail, de mémoire c'était une cinquantaine, etc. Et puis, il y avait la déclinaison pratique, et comme on l'avait dit, ce qui affaiblissait le code du travail, et accessoirement ce qui le rendait de plus en plus illisible, parce que ce qui fait qu'il augmentait, c'était l'augmentation du poids des dérogations.
Ouais. Voilà.
Là, on passe à la vitesse supérieure. Il y a le principe, il y a ce qui est renvoyé au champ de la négociation collective, et il y a ce qu'on appelle le droit supplétif, c'est-à-dire si ma foi, on n'a pas réussi à trouver un accord, et on verra de quelle manière ils vont tout faire pour trouver un accord, et je vais détailler...
Ouais.
Eh bien, c'est la règle de droit qui s'applique par défaut. C'est-à-dire qu'en fait, l'exception devient la règle, et la règle devient l'exception, tout simplement.
D'accord. La règle de droit ne sert que de solution par défaut en cas d'absence d'accord.
Tout à fait.
Voilà.
Donc qu'est-ce que veut faire Macron ? Il veut étendre cette logique-là à l'ensemble des livres du Code du travail.
Y compris l'hygiène sécu ?
Bah oui, ça veut dire voilà, l'hygiène sécurité. Comme, comme si on pouvait négocier, entre guillemets. Alors bien sûr, on peut toujours... Si l'idée c'est négocier pour améliorer, parce que à la base c'est ça le principe de la négociation collective, sauf qu'on assiste là aussi depuis un certain nombre d'années à un dévoiement de ce que c'est que la négociation collective. En fait, c'est pas négocier pour améliorer, c'est négocier pour amoindrir. Mmh. Hein, c'est de dire, oui, bah, y a des heures supplémentaires, ok, elles sont payées, ah, ça, bah, on est content, elles sont majorées, ah, c'est bien, etc. et tout, mais oui, mais maintenant, je peux vous payer une majoration moindre que le niveau qui est prévu par la loi. Mais c'est un progrès, hein. Tout le monde le conçoit expliqué comme ça. Hein, parce que c'est la rentienne, c'est pour dire, oulala, le droit du travail, c'est pesant, etc. et tout, on va le ramener au plus près du terrain, c'est-à-dire à la réalité des entreprises, hein, parce qu'on parle surtout des entreprises, évidemment. Ouais. On ne parle pas des salariés, parce que nous, on ne croit pas que l'entreprise, ça soit un lieu neutre, ou ça soit l'addition, entre guillemets, de l'employeur et des salariés, qu'ils auraient des intérêts communs, etc.
Mais,
et tout.
Mais attends, attends, je t'arrête, là. Les mesures s'appellent employeur-salariés. C'est bien qu'ils sont mis sur un pied d'égalité.
Que, évidemment, alors, parce qu'après, on va faire croire, évidemment, aux salariés qu'ils ont des choses à gagner. Comme lors de la loi travail, je rappelle que le plus grand défenseur de la loi travail, c'était quand même Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Mmh. Hein, il faut comprendre la chose, c'est que généralement, tout ce qu'on retire comme droit aux salariés de manière collective, on essaye plus ou moins leur offrir une soupape de sécurité, etc., mais non plus sous la forme de droits collectifs, mais de droits individuels, qui sont liés à leur personne, entre guillemets, j'aime bien ce mot-là, sécuriser leur parcours professionnel.
Oh, oui, c'est beau ça.
C'est pas grave, on peut vous virer du jour au lendemain, on peut vous interchanger du jour au lendemain, mais on vous lissera pas sans rien au milieu, et vous inquiétez pas, comme vous serez bien accompagné, vous serez bien formé, tutti quanti, etc., vous retrouvez du travail très vite, et la cage chômage sera la plus rapide et la plus indolore possible. J'ai pas l'impression que, statistiquement parlant, c'est ce qui se passe actuellement dans notre pays.
Eh oui.
Mais peu importe. Hein, certains, en tout cas, ils croient à cette manière de faire, ils pensent que ça marche. Visiblement, il y a un défaut. Donc, il veut étendre cette logique-là. Alors, a priori, il veut étendre cette logique-là, mais il y a toujours un cercle dur. Par exemple, il y a la question des salaires. C'est quand même une question, la question des salaires. Je ne crois pas que M. Macron, tout comme M. Fillon, d'ailleurs, son objectif soit de créer autant de SMIC que d'entreprises. Mais on peut quand même, entre guillemets, se poser la question. Une image qui est très parlante, c'est qu'effectivement, alors que le but, c'est soi-disant simplifier le code du travail, eh ben, ça va être très simple, on va quasiment se retrouver avec un code du travail par entreprise.
Ouais,
alors, effectivement, c'est ça. Hein, on ne peut plus simple, c'est évident. Hein, moi, j'ai sous les yeux le petit livre là qui est sorti chez... C'est Dalloz qui a dédié ça, un appendice au code du travail, parce qu'on attend là les nouveaux codes du travail qui
vont
être sous peu, etc. et tout, c'est sorti chez Dalloz, supplément au code du travail, ils ont donc compilé, encore il n'y a pas tous les décrets de publication, tout ce qui est issu de la loi travail, et super, j'ai déjà 380 pages en plus, donc évidemment, ça va être beaucoup plus simple.
D'accord.
Donc ça, c'est la première chose que veut faire Macron. C'est où, par exemple, aussi étendre plus loin les prérogatives de l'employeur qui sont liées à l'application de la loi Rebsamen. Hein. Rebsamen, c'est un ancien ministre du Travail, c'est celui qui était avant El Khomri. Il a trouvé que c'était mieux à Dijon que de retourner à Dijon que rester à la rue de Grenelle, mais peu importe, on a les amis qu'on veut. Là, par exemple, l'employeur aura la main, y compris dans les grosses entreprises, l'employeur pourra imposer de manière unilatérale le regroupement des instances représentatives du personnel.
Je t'arrête, je crois que tu es encore en dessous de la vérité. Alors, moi, ce que j'ai sous les yeux, mais après, c'est vrai que c'est des annonces, donc c'est susceptible de changer. Donc, mais ce que j'ai sous les yeux, ce qui avait été lancé comme idée, moi, alors là, c'est institut représentatif du personnel, une instance unique de représentation. Donc DPCE, CHSCT, tout ça fusionné dans toutes les entreprises et tous les groupes sans limitation de plafond d'effectifs. Voilà, sauf s'il y a un accord contraire. Voilà ce qui a été proposé.
Tout à fait.
Donc ça, la fusion des IRP, alors ça, on en avait déjà parlé.
L'accord, très clairement, ça montre quoi ? Que l'accord ne permet pas une amélioration. L'accord permet simplement de préserver l'existant. C'est formidable.
Oui, si on trouve les forces pour le défendre.
De négocier juste pour préserver ce qui existe. Mmh. C'est un grand signe de conquête sociale. Donc voilà, pousser au maximum la logique portée par la loi El Khomri. Ça c'est le premier point. Mais comme on l'a dit, il y a aussi essayé de faire passer ce n'a pas pu être mis dans la loi El Khomri. Hein, parce qu'en particulier, y compris les syndicats les moins retors, ont dit non, ça c'est une ligne rouge, il faut pas la franchir. Donc Emmanuel Macron, de mémoire, va revenir à l'assaut pour la troisième fois. Il a de la volonté, ce garçon, hein, il est tenace. Avec son histoire de barémisation des indemnités prud'homales. Donc pour expliquer ce que c'est. Il l'avait déjà tenté lors de la loi Macron, la loi Macron 1. C'est-à-dire de dire en gros, oulala, en fait, la peur pour les patrons. Pourquoi les patrons ont du mal à embaucher? Pourquoi il y a autant de chômeurs dans notre pays? Parce que vous compreniez, licencier quelqu'un, c'est très difficile. Et oulala, si je licencie quelqu'un n'importe comment, etc., dans tous les cas, je me retrouve au prud'homme et tout ça va me coûter beaucoup d'argent. Il paraît même qu'il y a des entreprises qui mettent la clé sous la porte à cause de ça. Je suis pas certain déjà qu'on se pose le même type de question. Je sais pas, moi, quand un type est agressé dans la rue, qu'on lui casse la tête ou que malheureusement il est victime d'un accident de voiture, je crois que ça vient à personne de dire non mais on va épargner le chauffeur ivre mort ou le délinquant, etc.
Tu parles des employeurs dans ce pays.
Voilà. Là on parle d'employeurs, donc évidemment on parle de gens qui sont beaucoup plus respectables. Ça va de soi. Donc c'est en fait pour déterminer à l'avance le risque qui est le leur.
Pour qu'ils puissent en fait provisionner.
Provisionner, tout
voilà.
Simplement.
C'est ça, provisionner en sachant qu'ils ils mettent la somme de côté et se sortira.
Donc ça a été censuré une première fois par le Conseil constitutionnel parce que dans les critères, ils avaient entre autres tenu compte de la taille de l'entreprise. Et donc le Conseil constitutionnel a dit que c'était une rupture d'égalité entre citoyens français devant la loi. Il l'avait mis, et ça marche absolument pas, sous forme d'un barème indicatif, donc existe déjà, que à ma connaissance, peu de juges prud'homaux, hormis le fait qu'il est indicatif, s'y réfère tout simplement. Donc là, il veut retenter sa chance et le rendre de manière impérative, c'est-à-dire que ça encadrera, entre guillemets, les décisions du juge. Hein, d'ailleurs, lui, il voulait créer un plafond, mais là, il a compris, il veut créer un plancher et un plafond pour quand même un peu d'air entre guillemets entre les deux. Mais y compris par exemple ce qu'ils proposent actuellement, il y a déjà des planchers qui sont dans le code du travail. Par exemple, quand un salarié qui a plus de 2 ans d'ancienneté et qui travaille dans une entreprise de plus de 10 salariés. Alors ça, pour le coup d'ailleurs, ça a été reconnu constitutionnel. C'est normal qu'une entreprise qui a plus de salariés, elle a entre guillemets un peu plus les moyens d'indemniser le salarié qu'elle a licencié à tort. Eh bien, il y a actuellement un minimum, parce que c'est un minimum, de 6 mois. Dans les projets de barème qui circulent, etc., et tout, à ancienneté égale, sans faire référence à la taille de l'entreprise, on serait à 4 mois. Ben voilà, c'est toujours 4 mois maximum.
Ah, c'est le plafond.
Oui, c'est un plafond. Là. On serait à 4 mois maximum. Donc, ça montre bien qu'on tire vers le bas,
d'accord,
y compris les droits existants. Alors qu'il y a un principe tout bête, qui s'appelle la réparation intégrale du
préjudice.
Il y a même ça dans le code civil, etc. Bref. Donc voilà ce que Macron veut faire. Et encore, ça, c'est ce qu'il annonce. Parce que ce qui est important. Il veut aussi faire d'autres choses, mais je vais pas détailler parce que là, une fois qu'il aura réussi ça, il veut s'attaquer à la protection sociale, redéfinir le régime de retraite,
réduire encore les cotisations
de l'assurance chômage, en malmenant effectivement qu'on appelle le salaire différé, le salaire socialisé, etc. Ouais. Mais alors, surtout, maintenant, c'est peut-être le moment de dire comment il veut faire. Parce que ces gens-là sont pas bêtes. Ils apprennent quand même de leurs erreurs du passé. Ils ont vu, par la même expression, le beau bordel qui a malgré tout été la mobilisation contre la loi El Khomri. Donc, ils veulent à tout prix éviter ça. Donc, ils veulent aller vite, comme ils le disent, et ils veulent procéder par
ordonnance.
Ordonnance, ça veut dire quoi? Alors, c'est prévu par l'article 38 de la Constitution française, c'est-à-dire que là où on a quand même c'est le gouvernement qui gouverne et le président qui préside, et puis il y a quand même une assemblée nationale qui a son mot à dire, dont d'ailleurs parfois elles peuvent être de 2 couleurs politiques différentes, ou même quand elles sont de la même couleur politique, on l'a bien vu à travers le quinquennat de Hollande, par exemple quand on est élu sur un programme et qu'on s'écarte plus que sensiblement du programme, ça peut créer quelques tensions, donc après ça peut obliger à utiliser les moyens les plus retors, on va dire, de la Constitution, entre autres le fameux article
49.3.
Donc il veut aller vite, c'est-à-dire que en fait c'est lui qui va écrire la copie, il va aller devant l'Assemblée nationale, il va dire les mecs, voilà ce que je veux faire, voilà en gros c'est quoi ma feuille de route, vous êtes pour, vous me laissez écrire ma copie, vous êtes contre, j'écris plus rien, ok, voilà. Et puis ensuite, il écrit sa copie, et puis il revient une deuxième fois, mais deuxième et dernière fois, pour dire, bon ben voilà, si vous vous mettez combien, vous mettez au moins la moyenne, c'est bon, ça passe, sinon, c'est recalé. Voilà.
Donc,
ça veut dire que lui, il a la prétention. Je pense personnellement que c'est difficilement tenable, parce qu'entre l'installation de nouvelles députées, peu importe qu'il ait ou pas une majorité, ça c'est un autre facteur. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il en aura une, peut-être pas totalement à son image, mais qu'il en aura une quand même. En gros, il veut faire passer la première pilule en juillet et la deuxième et dernière, donc en septembre. En sachant qu'en plus, enfin au-delà même du contenu, au-delà même de la méthode, on a par exemple, c'est de la loi qui va se rajouter à de la loi qui vient à peine d'exister, dont on a à peine vu le fonctionnement, qui est même pas évalué. Donc tout ça, en fait, la vraie motivation de ça, c'est de l'idéologie et rien d'autre. De l'idéologie et rien d'autre. Des vieux clichés, des préconçus. Le code du travail, c'est compliqué. Donc là, bon, quand même, c'est une entreprise. Après, on peut ne pas être d'accord sur le contenu, etc. et tout. Mais justement, suite à la loi El Khomri, il y a un groupe d'universitaires en droit du travail qui, entre guillemets, ont lancé l'idée et se sont pris au jeu.
Ouais.
Et ont rédigé un code du travail.
Mmh.
Un code du travail, alors là, qui est...
Tel qu'il devrait être, c'est ça, en fait.
Pardon ?
Tel qu'il devrait être.
Oui, enfin, en tout cas, oui. C'est-à-dire un code du travail simple dans le sens où il est trois fois moins épais que le code actuel.
Mmh.
Avec non seulement des droits constants, mais des droits améliorés.
Mmh. Hein? Par exemple, c'est clair.
Un exemple tout bête, c'est ça, parce que quand on va devant les prud'hommes, le litige roi, c'est le licenciement. Donc on a un côté, M. Macron, qui vous dit, moi je vais vous faciliter les licenciements en particulier collectifs, et je vais faire en sorte que ça vous coûte le moins possible. Et puis il y a ce code qui dit, il pousse jusqu'au bout l'idée de la réparation intégrale du préjudice, c'est-à-dire... Si le juge, et le juge le plus souvent, en tout cas dans un grand nombre de cas, il dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, eh bien la réintégration du salarié, qui est la seule manière de réparer véritablement son préjudice, serait non seulement de droit, mais qui en plus dit, étendrait entre guillemets ce qu'on appelle le régime de nullité, qui dit, bah, si en fait il n'y avait pas de raison objective pour vous licencier, je considère qu'entre le moment où vous a licencié et le moment où j'ai pris une décision de justice qui dit le contraire, eh bien, on doit aussi vous verser la totalité de vos rémunérations.
Ah oui. C'est voilà. Comme le licenciement nul, en fait. Ça rassemble sous une même étiquette le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement nul, et ça considère que l'absence de cause réelle et sérieuse annule le licenciement.
Voilà.
C'est ça,
fait.
Ok.
Et ça, ce sont des notions qui peuvent exister dans d'autres branches du droit, je veux dire. Quand c'est nul, c'est
nul. C'était la règle... à une époque pas si éloignée. Un certain nombre de licenciements sans cause réelle et sérieuse, notamment dans certaines conditions vexatoires de licenciement, pouvaient être déclarés nuls. Et on
oui,
obtenait ce résultat.
C'est encore pour certains le cas, etc. Mais voilà, l'idée, c'est d'étendre le régime le plus favorable à l'ensemble des licenciements.
Donc, alors, si je résume, parce qu'on va bientôt...
Ça passe vite,
ça passe super vite. Mais alors, justement, si je résume, donc on a bien une idéologie, un aspect totalement idéologique, on nous dit c'est comme ça, c'est la seule manière de procéder, et là, on a une démonstration par le GR Pacte, donc ce code du travail alternatif, qu'en fait, on peut tout à fait raisonner différemment, hein, c'est ça, hein, c'est,
oui.
Voilà. Et par ailleurs, il y a aussi, alors je crois que tu participes également à une campagne qui a démarré pendant les présidentielles et qui entend se poursuivre, pour continuer avec l'idée qu'on est obligé de rester l'arme au pied, quoi. C'est ça que je
Oui, alors nous, c'est le syndicat Sud-Commerce, auprès d'autres organisations syndicales de base ou ça peut être des syndicats d'entreprise, des syndicats fédéraux, etc. et tout, de la CGT, de la CNT, de Sud, de la FSU, on participe à ce qu'on appelle le front social. Hein, pour être précis, a été lancée une invitation, ça c'était aussi une première inédite, à un premier tour social le 22 avril dernier, c'est-à-dire la veille. On n'avait jamais manifesté la veille de la première tour des élections présidentielles.
Oui, c'est vrai.
On s'est retrouvé à 2000, c'est bien. On était présent évidemment à la manifestation du 1er mai, y compris dans le contexte inédit de l'entre-deux-tours qu'on fait. D'ailleurs, sans chercher à savoir, alors c'est quoi le mieux entre ceux qui votent blanc, ceux qui votent nul, ceux qui votent contre Le Pen, on n'a pas cherché à opposer les positions des uns et des autres, à reproduire les clivages qui peuvent exister d'ailleurs entre les organisations syndicales au plan national sur cette question, aussi importante soit-elle. et donc qui a débouché donc sur une nouvelle manifestation le premier jour du quinquennat de Macron, c'est-à-dire dès le 8 mai, où là on était près de 7000, hein, la barre était nettement plus haut. Donc on sait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une attente, il y a une attente de gens qui n'ont aucune illusion sur ce que va faire Macron. Macron, une nouvelle fois, on connaît, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise comme Hollande, et qui disent c'est maintenant qu'il faut organiser la lutte. Il faut d'autant plus l'organiser de la manière, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, dont il veut nous enfler cet été.
Oui.
Voilà. Donc ce constat, il est là. C'est quelque chose qui fonctionne. C'est d'autant plus quelque chose qui fonctionne qu'on voit que spontanément, il y a des fronts sociaux locaux qui se mettent en place. Entendons-nous bien. Ça ne veut pas dire que les organisations syndicales, en particulier au plan national, n'ont pas leur mot à dire ou n'ont rien à faire. Mais pour le moment, enfin, concrètement, c'est l'attentisme qui prévaut. C'est y compris certains qui disent, il y en a même, là, j'en ai vu, ils s'extasient sur la nouvelle ministre du Travail.
Oui, on va revenir là-dessus, t'inquiète pas.
Voilà. oui, bah, c'est, voilà, DRH, elle connaît très bien, etc. et tout. Voilà. Le jour où il y aura un ministre du Travail qui, véritablement, sera un travailleur, là, il y aura peut-être de quoi s'extasier, mais je crois que depuis Ambroise Croizat, en 1947, c'est jamais arrivé.
Ouais.
Voilà.
Donc, donc
on dit il faut préparer sérieusement la lutte. Il faut apprendre aussi de ses erreurs, de ses défaites, mais de manière. Hein, voilà, à chaque fois que j'interromps, on me dit mais c'est quoi? Je cite la phrase d'Einstein qui dit que la folie c'est de croire qu'en faisant les mêmes choses on arrive à un résultat différent. Donc si c'est pareil, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des manifestations interprofessionnelles, les machins, etc. Tout ça se construit, etc. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut anticiper. Puis on l'a vu dans ces manifestations, d'ailleurs, il n'y a pas que des syndicalistes. Hein, il y a aussi des gens qui viennent de Nuit Debout, il y a même une mouvance entre guillemets de gens assez jeunes, on va dire, hein, les lycéens, ceux qui aiment bien bloquer leur lycée, etc. et tout. Alors après on peut être d'accord, pas d'accord, etc. Mais c'est aussi une manière de s'exprimer, c'est aussi une manière de prendre la rue. D'ailleurs ça s'est très bien passé, hein. On avait toujours l'habitude pendant le travail d'opposer le cortège de tête entre guillemets, où d'ailleurs il y avait des gens très organisés sur le plan politique et syndical, et le cortège officiel entre guillemets qui suivait derrière. Là c'est bien, on a une fusion des deux, on a un seul et même cortège. Et en plus, quand violence il y a, on l'a bien vu le 8 mai, c'est clairement de la police, hein. C'est pas suite à je ne sais quelle provocation de la part de je ne sais quel manifestant aussi cagoulé soit-il.
Je vais devoir te couper, mais ce que j'en retiens, c'est que les menaces sont importantes. D'ailleurs, on va voir que sur la fonction publique, ça pèse aussi, hein, prochaine séquence là tout de suite. Et attends.
Tout à fait.
Et que par ailleurs, déjà il est possible de constituer des blocs de mobilisation qui préjuge et qui prépare les luttes à venir. C'est à ça que tu nous invites pendant l'été, en fait.
Par exemple, on sait que dans le programme de Macron, il y a la suppression de postes de fonctionnaires.
Oui.
Et on sait, par exemple, ce qui a fait défaut dans le rapport de force de la mobilisation contre le travail, c'est que les fonctionnaires qui n'étaient pas directement concernés par la loi travail sont d'une certaine manière restés cotés. Je rappelle, hein, quand même, la fonction publique, les trois fonctions publiques confondues dans notre pays, c'est 4 millions et quelques de salariés, et c'est quand même un milieu où il y a encore un taux de syndicalisation, en parlant dans certaines professions, je pense aux profs, etc. et tout, de plus de 30%. Donc j'aurais le seul avantage par rapport à la politique de Macron, comme il a clairement annoncé sa feuille de route, comme il a décidé d'attaquer tous azimuts, ça va être, je l'espère, d'éviter le saucissonnage entre les différentes mobilisations.
Et ça ne
veut pas dire, c'était votre cas il y a quelques jours là, que les inspecteurs du travail ne doivent pas se mobiliser par rapport aux préoccupations qui d'ailleurs, pour le coup, sont pas les préoccupations des inspecteurs du travail, etc. et tout. Mais ça veut dire que voilà, comme on a dit, le Front social, par exemple, c'est de dire tout le monde dans la rue au même moment.
Oui.
Donc là, par exemple, le prochain rendez-vous qu'on propose, et c'est pas une histoire d'une avant-garde éclairée, je ne sais quoi, je dis ça, il y a une rencontre nationale qui est prévue le 10 juin. Et qui va permettre justement de voir les pratiques des uns et des autres, ce qui commence à s'organiser dans certaines régions, c'est le 19 juin. Pourquoi le 19 juin? Bah, c'est pareil. On sera le lendemain du second tour des législatives. Hein, donc avec un rendez-vous qui est donné sur Paris à 18h devant l'Assemblée nationale. J'ai vu le communiqué de la Confédération CGT qui date d'il y a deux jours, qui pointait à juste titre que, oui, bon, ok, on irait voir Macron, on irait discuter avec lui, on se fait pas d'illusions, on lui exposera les revendications qu'on a nôtres, et qui appelle à un temps fort, la troisième semaine de juin. Mais j'espère que des camarades de la CGT nous écoutent, en partie en responsabilité, pour dire, ça serait pas mal, le 19 juin, il y a déjà une date qui est proposée. Et donc, ça serait bien, non pas de s'y rallier, mais de dire, c'est une bonne date, c'est une bonne heure en plus, hein, on est en fin d'après-midi, etc. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il ne faudra pas se mettre en grève. On va peut-être garder ça pour un peu...
on va garder les forces.
C'est pas devant n'importe quel endroit. Voilà, donc à mon avis, une excellente initiative à rejoindre et à populariser.
Ok. Eh ben nous, on va enchaîner sur une autre excellente initiative qui est la mobilisation de l'inspection du travail demain. Je ne sais pas si tu es derrière ta radio, mais je t'invite à nous suivre donc sur www.rfpp.net, hein, le direct. On va passer, on va passer tout de suite à la séquence fonction publique. Alors, j'explique un peu le nature de la séquence. Nous avons eu une mobilisation à l'inspection du travail. On a eu la joie de voir dans les différentes mobilisations en Île-de-France venir à nous un grand nombre de fonctionnaires d'autres professions. Et à toutes les personnes que j'ai pu interroger, j'ai posé à chacun la même question que je vous laisse écouter et les réponses suivent immédiatement.
Alors voilà le quiz.
Je
vous informe que cette fois-ci dans le gouvernement, il n'y a pas de ministère de la fonction publique du tout. La direction générale de la fonction publique est rattachée à la comptabilité et au budget. Quel est votre sentiment là-dessus ?
Et malheureusement, oui. On a appris ça hier. C'est un ministère de la comptabilité publique, c'est-à-dire que les agents du service public sont considérés comme des lignes de compte. Et ça montre bien tout le mépris qu'a ce gouvernement pour la fonction publique, pour le service public, pour le droit des usagers. Et c'est très révélateur d'un gouvernement qui est en fait le gouvernement d'union des libéraux.
C'est le mot de la fin. Merci.
Merci.
On sait bien que pour nous, c'est bientôt la mort. Hein. On nous supprime de plus en plus et c'est malheureusement... la fin presque, mais nous sommes encore là et nous avons l'intention de lutter jusqu'au bout.
Une approche bien financière de l'administration et de la fonction publique et des services de l'État.
Bah oui, c'est un ministre de l'action publique qui est relié au compte public, donc pour nous c'est un très mauvais signe, puisque c'est évidemment l'approche comptable de la fonction publique, hein, on va raisonner de façon comptable en termes de... coût que ça va représenter indépendamment des missions qui sont réellement exercées. Et puis un dernier mot, hein, il y a une véritable provocation là du gouvernement qui a été de nommer une DRH comme ministre du Travail, hein, quelqu'un qui est issu directement des milieux patronaux avec ce DRH de Danone, de Dassault Industrie, Dassault Aviation, je sais plus, et actuelle directrice générale de France Business. Donc nommer une patronne à la tête de la direction de l'inspection du travail, bah c'est une vraie provocation. Au-delà de ça, ça montre bien que Macron est déterminé à aller jusqu'au bout dans ses ordonnances de casse du Code du Travail. Et nous, on s'inscrit dans ce mouvement puisque l'inspection du travail, le ministère du Travail est au service des salariés et reste un des derniers recours auxquels les salariés peuvent faire appel pour faire valoir leurs droits dans les entreprises.
Ah, moi, personnellement, c'est de prendre le bitume et mes baskets. Hein. Ça, il n'y a pas. De toute façon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la dernière... Enfin, au niveau des lois contre la précarité, et j'entends bien, hein, parce que... au-delà de tout gouvernement, hein, et d'orientation politique, c'est aujourd'hui sauver les gens de la précarité et de la misère. Alors oui, Monsieur Macron a décidé de ne pas nous accorder un ministre de la fonction publique. On trouvera les moyens de faire appliquer des choses et surtout défendre nos droits. Ministre ou pas, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, par le combat et la lutte, ça, on lâchera pas. Et s'il faut être encore plus dans la rue et manifester, on continuera pour gagner des droits.
Voilà, donc c'était les réactions des camarades fonctionnaires. Alors, on va se tourner vers Sophie parce que en fait, j'ai recueilli donc ces réactions uniquement hier, en fait, dans la journée d'hier, qui a été une journée assez active pour nous. Hein, parce que qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qui s'est passé hier pour qu'on soit toi et moi on est quand même assez contents de comment ça s'est passé en fait, hein, pas vrai?
Oui, c'est sûr.
Ouais. Ouais, donc c'était une journée particulière pour nous à l'inspection du travail.
Oui, c'était une journée qui était préparée depuis un certain moment. Donc c'était lors d'une assemblée générale en fait il y a quelques mois que à l'occasion d'une mobilisation contre la loi travail, en fait on s'était dit on voyait déjà pointer le projet qui nous concernait plus spécifiquement de suppression de postes et de redécoupage des secteurs de contrôle, et on s'est dit il faut
Il faut faire quelque chose.
Il faut faire quelque chose. Donc là, il a été proposé une journée d'action nationale avec des actions en fait qui soient décentralisées et locales dans les différents départements. Et donc ça a été repris par l'intersyndicale. Et après plusieurs reports, donc c'est voilà le 18 mai, voilà que ça s'est fait. Au niveau de donc des différents départements, il y a eu quelques rassemblements, hein, dont celui à Paris, à Stalingrad et dans le 93 et dans d'autres départements. Donc ces rassemblements ont été suivis l'après-midi d'un rassemblement à Aubervilliers. Donc là, c'était vraiment une très bonne chose. On était très nombreux, environ 300 personnes. Et ce qui fait un petit peu écho à ce dont parlait Laurent tout à l'heure, concernant la diversité des personnes qu'on peut retrouver dans nos mobilisations. Donc là, on avait la chance de pouvoir compter sur le soutien de l'Interpro.
Notamment, les UD.
Voilà, il y avait notamment l'Union départementale, le secrétaire général de l'Union départementale à CGT à Paris. Il y avait aussi des camarades d'Infocom CGT.
Oui, tout à fait.
Qui sont particulièrement impliqués dans le front social, et il y avait les collectifs de sans-papiers également, et je pense que ça a été très déterminant pour nous redonner la pêche et nous encourager aux actions qui ont pas tardé à suivre, puisqu'on n'est pas très resté longtemps au pied de la directe. On est rentré et on est allé trouver notre directrice régionale qui était par ailleurs en pleine réunion avec pléthore de hiérarchie locale et régionale sur la question du redécoupage et des suppressions de postes. Et la première revendication, ça a été qu'elle réponde devant l'ensemble des agents qui étaient là.
Ouais.
On n'était pas assez nombreux pour, on tenait pas tous dans la petite salle de réunion où elle se trouvait. Donc on a réussi à la faire sortir de cette salle et on est tous allés à l'auditorium dans une plus grande salle où on était tous là, et là elle a dû s'expliquer devant tout le monde, répondre aux questions. Ouais. Les agents ont exprimé beaucoup de colère. Ils ont réclamé des réponses aussi qui soient pas des réponses de gestionnaire. Parce que, et alors, on était vraiment sur un dialogue de sourds et une répétition. Elle avait un argument en fait qui revenait en boucle, qui était particulièrement insultant. C'était que, compte tenu du taux de vacance des postes, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de postes, 8%, qui ne sont pas pourvus par des agents. Donc c'est pour ça qu'il fallait supprimer des postes.
C'est ça. Il y a des trous. Donc, plutôt que de mettre des agents dans des trous, ou des agents qui demanderaient à aller à tel ou tel endroit pour remplir les trous, on élargit les sections, comme ça les trous disparaissent.
Voilà.
Ok. Donc, on dilue le gruyère pour faire disparaître les trous.
Voilà. Et donc comme ça, on peut communiquer après sur le fait que non, il n'y a pas de problème.
Bah oui.
Puisque
c'est redoutable. Effectivement. Alors, on va redonner la parole à Julien, donc secrétaire de la CGT du ministère du Travail, qui va nous expliquer un peu en fait les chiffres, les détails de comment on en est arrivé là et pourquoi est-ce qu'on a monté cette mobilisation, et après on reviendra effectivement sur le déroulé de la mobilisation.
Julien Boilieu, je suis inspecteur du travail et secrétaire national de la CGT TEFP du ministère du Travail.
Donc, je sais que la CGT, donc ton syndicat, vous avez beaucoup contribué à la réussite de cette journée. Qu'est-ce qui était prévu et qu'est-ce qui s'est passé en fait aujourd'hui en Île-de-France autour de la question de l'inspection?
Alors, on a beaucoup travaillé d'abord en intersyndical, hein, puisque le fait assez notable, c'est que cette journée d'action nationale avec des actions décentralisées est appelée par la totalité des syndicats du ministère du Travail, donc un front unitaire très large.
Vas-y, décris-nous le front unitaire.
Donc ça va de la CNT à la CFDT, en passant par l'UNSA, la CGT, la FSU, FO, Sud, je crois que je n'oublie personne.
En fait, tout le monde était là, quoi, c'est ça.
Voilà, donc ce qui nous a réunis, c'est surtout le fait que la situation devient insupportable. Le ministère du Travail a perdu un emploi sur cinq depuis 2009. Hein, on est passé de un peu moins de 9 000 agents à un peu moins de de 8000 en 2017 et ces suppressions s'accélèrent. Et aujourd'hui, par exemple, en Île-de-France, hein, puisque moi je suis agent en Île-de-France, ce qui est prévu, c'est la suppression de 80 postes, dont la suppression pure et simple de 49 sections d'inspection du travail.
Ça fait pas mal, ça, 49 sur le. Il y a combien de... C'est quoi à peu près le chiffre des sections en Île-de-France ?
Alors en Île-de-France, il y a aujourd'hui 468 sections d'inspection du travail. Une section d'inspection, c'est un secteur géographique sur lequel exerce un agent de contrôle, inspecteur ou contrôleur, sur lequel il va contrôler l'ensemble des entreprises et des salariés, sur tout le code du travail. Donc 468 sections aujourd'hui en Île-de-France. Demain, c'est au 1er janvier 2018, ce sera moins 49. À Paris, donc c'est moins 10% quasiment, enfin un peu plus de 10%. À Paris, le chiffre est encore plus élevé puisque on passerait de 148 sections à 124, soit une baisse de 16%.
Oui, donc c'est une vraie saignée, quoi. Hein.
Oui, comme on en a rarement connu, en 2014, on avait déjà eu une perte de 10% d'agents en moins sur le terrain. Alors évidemment, ça fait des possibilités en moins de contrôle des entreprises. Ça fait plus d'entreprises à contrôler par agent de contrôle et ça fait moins de possibilités pour les salariés d'avoir la chance d'obtenir une intervention sur les cas pour lesquels ils nous sollicitent.
Donc, face à ça, il y a eu une mobilisation qui s'est menée. Donc concrètement, en Île-de-France, on a cherché à faire quoi alors ?
Alors l'objectif de la journée d'action, c'était d'abord de regrouper un maximum de collègues. Hein. On sentait qu'il y avait une certaine ébullition dans les services et qu'il fallait donner une expression à ce ras-le-bol et faire en sorte que ça puisse être assez massif. D'où l'idée d'une journée nationale d'action, mais avec des rassemblements décentralisés au plus près des services pour permettre à un maximum de collègues de s'y impliquer. Donc, alors en Île-de-France, on a essayé de créer une dynamique. Il y a eu des actions, par exemple à Nanterre, à Cergy, à Melun, à Paris, les deux semaines passées. Et puis aujourd'hui, il y a un rassemblement régional hein, qui regroupe l'ensemble des départements. Dans les Yvelines, ils font aussi un rassemblement local hein, parce que les temps de déplacement sont parfois un petit peu long. Ça permet de rassembler un maximum de personnes et donc là, en ce moment, on est en train d'interpeller directement notre directrice régionale pour lui demander d'arrêter son plan de suppression d'emplois.
Donc, l'intérêt, c'est que là, on a vu quand même se déplacer un peu de monde. Là. C'est pas ridicule, là, ce qui se passe.
Oui, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, donc je pense que ça répond à une vraie préoccupation des collègues qui, là, concrètement, sont noyés sous la charge de travail, ne voient pas comment ils vont s'en sortir. Et puis, quand on leur annonce que leur poste pourra disparaître, hein, puisque à Paris, par exemple, on nous dit qu'on va supprimer les postes qui sont actuellement nous pourvus suite à des mutations des départs en retraite, mais ça suffira pas, puisque il y aura toujours une dizaine de collègues qui seront en trop, entre guillemets, hein, d'après la direction. Pour pourvoir les 124 postes. Donc il y a des collègues qui ont des inquiétudes puisqu'ils se demandent s'ils pourront demain exercer encore en section d'inspection du travail.
Voilà, donc ça c'était un peu la logique qui a sous-tendu un peu la logique avec laquelle on a vu les camarades de différents syndicats ont organisé la lutte hein. C'était intéressant parce que ils montraient que l'idée c'est d'essayer d'aller à proximité des gens, c'est-à-dire de pas faire déplacer les collègues à un point de rendez-vous à Perpète-les-Oies, mais faire la mobilisation, démarrer la mobilisation au plus près et essayer de se regrouper au fur et à mesure. C'est ça un peu l'idée qu'on a fait.
Voilà, on est parti du local, au plus près de là où on travaille avec les collègues. Et on avait aussi la volonté d'agir auprès des usagers, des gens simplement qui passaient dans la rue pour vraiment les informer. Et ensuite, on a convergé sur le régional.
Exactement. Et donc, ça nous a permis localement de développer des convergences intéressantes. Là, on va passer donc à Bobigny. Alors moi, votre serviteur était à Bobigny, donc à midi, où nous avons fait un barbecue festif en invitant très largement autour de nous. On a eu la chance de voir débarquer successivement les postiers, deux délégations de fonctionnaires territoriaux, hein, les fonctionnaires de Bobigny et les fonctionnaires de 93. Et donc on s'est retrouvé à bloquer la rue devant la direction départementale du travail parce que il y avait juste pas la place pour tenir sur les trottoirs, il y avait trop de monde. Donc ça c'était très intéressant. Et donc là nous allons passer deux séquences. D'accord, qui sont en fait une interview d'une camarade postière et d'une camarade cantinière. Nous allons les passer à la suite, donc les séquences 4 et 5, je dis ça pour les camarades de la régie.
Véronique Ségor, de Sud-Poste 93.
Alors, Sud-Poste 93, donc vous êtes venus un petit peu nombreux, pourquoi ?
déjà pour venir en aide, enfin être solidaire des inspecteurs du travail, qui d'ailleurs nous ont souvent aidés. Donc on les sollicite assez régulièrement lorsque nous avons des problèmes et ils sont toujours à l'écoute et ils sont là pour nous.
Et donc qu'est-ce que vous avez entendu des causes de cette mobilisation, ça vous parle comment? Et aussi par rapport à ce que vous voyez là, est-ce que vous comprenez un peu le sens de cette mobilisation là?
Oui, bien sûr, comme chez nous, des suppressions de postes, donc beaucoup plus de travail avec beaucoup moins de monde. Donc bien sûr que nous sommes solidaires des inspecteurs et des inspectrices.
Et des contrôleurs et contrôleuses qui n'ont pas encore tout à fait disparu.
Exactement.
Et donc là, on voit quoi là sur place? Comment vous avez eu, parce que il faut décrire un petit peu pour nos auditeurs.
Alors énormément de monde, de nombreux syndicats sont là, y compris Sud, CGT, et puis une bonne convivialité, on va dire. Hein. C'est assez sympathique et je suis très heureuse d'être là avec eux.
Vous avez quelque chose à dire de plus?
Je remercie à tous mes collègues d'être là, de Sud, de tout horizon, et que la lutte continue.
Alors, avec Sabrina des Territoriaux de Bobigny, personnel des écoles, nous sommes en grève depuis lundi pour avoir un rendez-vous avec notre employeur sur le dialogue social, les difficultés que l'on rencontre, beaucoup de précarité de contractuels depuis l'arrivée de notre employeur, Monsieur De Paoli, maire de Bobigny, et qui refuse tout dialogue. Voilà. Alors en plus des précaires, des contrats, souvent des femmes familles monoparentales avec sans avenir et surtout sans discussion aucune sur leur devenir, quoi. On se retrouve dans des groupes scolaires. Il y a 3 ans de ça, on était à peu près des équipes de 5-6 selon le groupe scolaire en étant titulaire. Aujourd'hui, ça s'est inversé. En 3 ans de temps, on se retrouve avec un groupe scolaire où il y a un, voire deux titulaires sur place. Le reste de l'équipe, ça ne reste que des précaires. Voilà, sans aucune formation, bien sûr, pas tout à fait les mêmes droits. Pas du tout les mêmes droits, d'ailleurs. En tout cas, depuis décembre, on a opté, nous, élus des CT, des organisations syndicales et surtout élus des personnels. 4 postes sur notre secteur depuis décembre. On aurait pu sortir 4, voire 5 agents de la précarité. Et c'est vraiment un secteur où il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de misère sociale. Et il est sourd face à ça, notre employeur. Enfin, cette municipalité ne veut rien entendre. Voilà.
Donc vous êtes dans votre propre lutte là en ce moment et vous êtes venu vous déplacer ici. Pourquoi, comment ça vous parle ce qui se passe en ce moment là à l'inspection du travail?
Mais c'est exactement la même chose. On voit ces affiches, elles parlent d'elles-mêmes. Un agent est en noir. Alors on peut l'interpréter en deuil ou dans la souffrance, mais en tout cas c'est comme ça que je le vois. Juste à côté, un autre agent, un autre individu où il y a une croix rouge dessus, c'est-à-dire 1 sur 2 non replacés, ils sont dans des conditions de travail vraiment à pousser les personnels à bout. Donc bien sûr, on se greffe à ça puisqu'on est exactement, alors même si c'est pas tout à fait les mêmes secteurs, dans les mêmes conditions. Voilà, de précarité et de souffrance au travail. Mais bien sûr qu'on se greffe. Et si on avait cette possibilité de rassembler l'ensemble, parce que nous, on est ville de Bobigny, mais à Pantin, c'est pareil, au Blanc-Ménil, c'est pareil. Et si on pouvait rejoindre toutes ces forces, vous verrez qu'on ne s'arrêterait pas à 70 grévistes sur notre secteur. On est un secteur à 209 agents, que de la précarité. Et moi, je tiens à dire les chiffres parce que ce que sort notre employeur, c'est vraiment que des mensonges.
Voilà, donc un petit reflet de la diversité des gens qui étaient déjà à Bobigny. Alors on a vu que une partie de cette diversité nous a suivis et d'autres nous ont rejoints devant la directe. Hein. Et ça, c'est vrai que ça a motivé tout le monde quand même. Hein.
Oui, c'est clair. Parce que donc nous, tout ce qu'on disait par rapport à, parce que bon, derrière tous ces chiffres, hein, les suppressions de postes, les postes vacants, les effectifs en diminution, il y a des situations humaines qui sont désastreuses. En premier lieu, pour les salariés, les usagers, les travailleurs les plus précaires, pour lesquels on n'a pas les moyens d'agir comme il faudrait. On n'a pas les moyens de répondre à la hauteur de ce que eux ils demandent. Et donc là, ces usagers, ces salariés, ces précaires, ils étaient là avec nous. Il y avait les sans-papiers, il y avait l'Interpro, et ils ont pu dire à la directrice régionale qu'on avait en face de nous, il y a un besoin de l'inspection de travail. Il faut maintenir les postes, il faut recruter. Et donc ils ont montré voilà qu'ils étaient à nos côtés et ça franchement ça voilà ça donne la pêche.
Ça les déstabilise ça hein, la hiérarchie hein, oui. qu'il y ait quelqu'un oui. d'autre que leurs interlocuteurs
voilà.
habituels.
Voilà. Et par ailleurs, c'est ce qui donne la pêche aussi, c'est que il y a des modes d'action qui ont pu aussi, je pense, nous inspirer. Tout le travail qui a été fait avec les sans-papiers, les occupations qu'il y a eu à la DGT, dans nos locaux, à la DGFP, etc. Je pense que ça nous a appris aussi. Ça nous a montré qu'il y avait des choses, voilà,
qu'on pouvait faire. Et conséquences.
Il y avait aussi des salariés du commerce qui étaient présents à cet AG et qui ont dit, qui ont rappelé qu'ils avaient mené une occupation dans leur magasin et donc c'est je pense qu'il y a l'Interpro aussi a évoqué des occupations dans d'autres secteurs et du coup la question s'est posée très rapidement en fait ça a commencé par circuler entre collègues et vu que chez Rubini on pouvait pas en obtenir grand chose hein, c'est pour ne pas dire rien du tout c'était en boucle voilà les arguments en boucle ouais. Donc on a fini par lui dire on prend acte de votre refus de retirer votre projet de réorganisation donc là maintenant on va discuter entre nous. Donc on est parti en assemblée générale concrètement voilà on a occupé.
Alors on a occupé, c'est-à-dire on était dans l'auditorium, c'est ça ?
Ouais. Et on est resté.
On est resté.
On a exigé que puisque la directrice régionale se défilait, que ça soit la ministre qui vienne répondre, puisque on nous renvoie toujours vers le niveau supérieur entre guillemets. Donc comme c'était pas elle, c'était le ministère. Donc au ministère de venir à nous. Donc on a envoyé, on s'est mis d'accord sur un communiqué qu'on a envoyé à la presse en disant voilà là on occupe et on attend que la ministre vienne s'expliquer et ça a été on a aussi évoqué le soutien important de l'Interpro et des sans-papiers ouais. Et donc ça a été repris par la presse oui. Et là ça a été aussi un moment de d'échange entre collègues
changement d'ambiance
on est parti à 23h prenant acte que la ministre ne s'était pas déplacée mais bon en même temps on n'était pas très très surpris mais voilà c'était clair on avait pu faire passer notre message on avait pu montrer qu'on s'était mobilisé massivement que l'Interpro était avec nous, les sans-papiers étaient avec nous, c'était un coup de semonce et que la prochaine fois, on reviendrait plus nombreux.
Oui, ça nous a permis de franchir une étape, d'aller un peu plus loin que d'habitude les surprendre en fait.
Voilà, ouais. Voilà, parce qu'on s'est aussi surpris nous-mêmes et ça...
Ouais, on s'est surpris nous-mêmes, t'as raison.
Ouais.
Bah c'est cool. Alors justement là-dessus, tu as plusieurs fois fait référence aux camarades sans papiers qui sont venus nous soutenir. Effectivement, il y avait plusieurs collectifs sur place. Il y avait pas mal de sans papiers dans la salle, y compris dans l'auditorium, notamment au début. Bon, quand on a commencé l'occupation, ils ont dit qu'ils allaient nous laisser, mais ils nous avaient soutenus jusqu'à cette étape-là, et ça nous a donné du courage. J'ai eu l'occasion donc d'interviewer un de leurs délégués. Hein. Je pense qu'on peut lui laisser le mot de la fin. Parce que franchement, je trouve que la séquence d'interview de Mamadou est très très belle. Donc, je vous laisse la primeur.
Bonjour, moi c'est Diallo Mamadou, je suis délégué du collectif des travailleurs sans papier de Vitry-sur-Seine. Donc, on a répondu aujourd'hui à l'appel de nos camarades inspecteurs du travail, notamment en ce qui concerne la suppression de postes au sein de l'inspection du travail. Donc, on se sent concerné pour cette suppression. Nous sommes des travailleurs, donc l'inspection du travail assure une protection pour nous, pour l'ensemble des travailleurs et surtout pour les travailleurs sans papier. S'il y a moins de suppression, s'il y a moins de postes, cela veut dire qu'il y a moins de vérification, moins d'inspection. Et c'est le travail au noir qui va exploser Et c'est les travailleurs sans papier qui vont payer les frais, parce que c'est les plus précaires, c'est les gens qui travaillent dans le bâtiment, dans la restauration, dans les boulots les plus pénibles. Donc ils ont besoin d'être vraiment protégés plus que les autres. C'est des endroits où on rencontre plus de pénibilité, plus de souffrance sur les lieux de travail.
Donc tu n'es pas venu tout seul en fait, il y a des camarades de ton collectif et d'autres collectifs je crois qui sont venus aujourd'hui pour nous soutenir.
Nous sommes venus, le collectif de Vitry, le collectif du 93, il y a Droit de Femmes aussi. Voilà, donc dans le 94, on était à peu près une vingtaine, et, ainsi que les autres collectifs. Quoi. Voilà, donc les camarades sont au courant, ils sont motivés. Et s'il y a quelque chose après, on compte être plus nombreux. Ouais.
Ça, c'est cool, je te remercie. Effectivement, c'est le début d'un travail de pression. Alors, c'est vrai que on met, l'inspection du travail, depuis 2 ans, là, mène une campagne avec les travailleurs sans papier. On a appris des choses sur l'action qu'on est en train d'essayer de mettre un peu en valeur. On a appris des choses auprès de vous. Donc, on est très content en plus que vous voyez un peu nous battre aussi pour nos droits. Quoi, hein. Voilà, c'était un peu ça l'idée.
Oui, moi je peux dire que c'est la concordance des luttes. Hein. On doit se donner la main et se battre face à ces gens qui veulent tout retirer aux travailleurs. Voilà, donc s'affirmer et revendiquer nos droits. Donc nous sommes dans la même lutte. Je pense qu'il n'y a pas à remercier ici les collectifs. C'est notre lutte, la lutte des inspecteurs, c'est la lutte des sans-papiers. La lutte des sans-papiers, c'est la lutte des inspecteurs.
Je voulais rebondir sur quelque chose dont avait parlé Laurent et ça me semble très important, c'est cette question de l'idéologie. Ça rejoint la question de notre mobilisation en fait, parce que avec cette balkanisation en fait du droit du travail, le fait qu'on voilà ce renversement de la hiérarchie des normes qui fait que certains qu'on met en fait en concurrence complètement les salariés entre différents secteurs, entre différentes boîtes. C'est moi quand je reçois des salariés en permanence, c'est ce que je leur dis, il y a une approche juridique mais il y a surtout une approche collective, et ce qui est important c'est de faire front ensemble, voilà. Et donc là il y a une idéologie de la concurrence, de l'individualisme, de la compétition entre les personnes, entre les boîtes, entre les communautés de salariés, et ça il faut surtout pas lâcher là-dessus.
C'est la leçon. C'est la leçon aussi, comme voilà. Tu disais, c'est la leçon de ce qu'on a fait hier, c'est-à-dire que chacun nous expliquait en quoi c'était pas leur lutte directement, mais qu'ils se sentaient concernés, qu'on était sur le même plan, y compris des fonctions différentes, des services différents, du public, du privé, et même les sans-papiers sont venus nous dire que c'était normal, que leur lutte était, la solidarité était une chose normale entre des gens en lutte. Et ils sont venus nous soutenir comme nous les avons soutenus. Mmh. Et ça, je pense que c'est crucial dans notre période, c'est crucial. Mmh. Voilà. Mmh. Et ce qui nous amène à la fin de l'émission, voilà. Donc, pour résumer, hein, la Macronie, ça va être très pénible, mais on a de la ressource et on va faire front social contre la Macronie, et on va gagner si on est tous ensemble.
Ça ne fait que commencer.
C'est ça. Ouais.